Saut de lecture car problème de lecture sur quelques lignes. Résumé, Jean-Charles Pichon continue son enquête sur Bombard et constate que beaucoup d'intérêts financiers sont en jeu, qu'il y a effectivement des choses qui ne sont pas claires et il a des preuves comme quoi beaucoup de choses sont obscures. J'avais tort de m'entêter. En septembre, Bélanger prit sur lui de m'en convaincre. Suite. Lecture intégrale. Il me dit que j'étais un très grand romancier, mais un journaliste détestable. Il me fallait quitter mon emploi. Ou je le faisais de mon plein gré, en touchant une indemnité qui m'était due, et avec l'assurance d'être employé très vite par des journaux amis, ou bien on trouverait la faute professionnelle qui m'exclurait des cadres. Je n'avais pas écrit de roman depuis mai 1952. Je voulais ma liberté, en effet, pour écrire. J'acceptais la formule de la démission. L'indemnité me donnait un trimestre d'existence. Je n'en employais que la moitié à composer Les Clés et la prison, où je comptais certains de mes souvenirs de reporter et prédisais la mort mystérieuse de ma femme. Avant la fin de novembre, je repris la route. Mais j'abandonnais le rêve de rêver les bombards et je ne le regrette pas. Note en bas de page. Mon dernier travail de 1953 est une étude chiffrée sur les différences de vitesse du canot de bombard. En Méditerranée, de Monaco au naufrage des Minorques, quelque 220 milles en 17 jours, du 25 mai au 11 juin, soit 12 milles par jour. De la rencontre de l'Aracaca, 49,50 degrés, le 15 décembre, à l'arrivée au large de la Barbade, 58,20 degrés, le 22 décembre, 550 milles en 12 jours, 45 milles par jour. Un yacht parcourt ses 100 milles quotidiens. Mais depuis son départ de Las Palmas le 6 novembre jusqu'à son arrivée à la Barbade fin décembre, en même temps que Bombard, le nymphe errante avait effectué un voyage beaucoup plus long, touchant deux fois à la Barbade et descendant jusqu'à Antigua entre-temps. Fin de la note. Suite. Une première fois déjà, je n'avais pas trahi. Quand, pressenti par un bazin d'Alsace, un journaliste était venu me voir pour que je confirme le premier nom de mon vieil ami, j'avais refusé. Ce n'était pas que Jean Hervé avait été mon compagnon, mais il écrivait de bons livres. Note de la lectrice, il s'agit d'Hervé Bazin. Fin. Mais il écrivait de bons livres. Puis il devenait lui-même un prince, dont je savais les générosités, envers Massa, envers Catelin. Que m'importait le jeu qui avait permis cela? De même quand, au lendemain de la catastrophe d'Étel, note de la lectrice, catastrophe d'Étel, des canaux commercialisés par Bombard auraient provoqué la mort de plusieurs personnes. Fin de la note. Reprise. Quand, au lendemain de la catastrophe d'Étel, où l'on avait trop cru en la stabilité de l'hérétique, un journaliste de Match vint me demander des éléments de mon enquête sur Bombard, je refusais de les lui donner ou de les lui vendre. Car déjà, l'homme n'était plus ce qu'il avait été. Le désespoir le lavait, dont témoigne un suicide avorté de justesse. Depuis des années, à la télévision, à la radio, j'entends et vois un homme sincère, lucide et brave, révélateur de bien des ombres et légendes, sinon de celles-là qu'il ne veut pas éclaircir. S'il le faisait, à quoi ne pourrait-il prétendre? Mais sa célébrité lui permet le courage, ce qui n'est pas rien. Écouterait-on aussi attentivement le sage, sans cette part d'ombre que se réserve le héros? Petit 3 de Un homme en creux. Passe pour Bazin, Sagan, Rochefort, Bombard, Charrière. Ils n'ont fait de tort à personne. Je suis convaincue que la catastrophe d'Étel aurait eu lieu de même que les voyages de Bombard fussent réels ou non. Y ont cru ceux qui voulaient bien y croire. Mais une grande erreur judiciaire. Ne faut-il pas intervenir alors ?
J'en ai connu plusieurs. L'affaire Marguerite Marty, le capitaine Blanc de Carcassonne, Marie Bénard, Paul Guillou. La première, l'affaire Marguerite Marty, s'est bien terminée par un acquittement du jury. Les autres ont été dramatiques. J'ai vu donner des conclusions précises par des experts qui n'avaient pas examiné l'organe, les intestins ou le foie de la prétendue victime. Des juges d'instruction haineux ou intéressés, car le juge n'en est pas moins homme, de faux témoins payés de décoration, des présidents de cours d'assises incapables de comprendre ce qu'ils lisaient et voyaient pour cause de vieillesse, des enquêteurs nommés pour étouffer l'affaire, j'ai tout vu. Mais rien d'aussi parfait dans le genre ignoble que l'affaire Dominici. Elle avait éclaté en août 1952, alors que je n'étais pas reporter. Mais pendant toute l'année suivante, j'en avais reçu des échos. Puis, il y eut ce court voyage dans le Nord, où j'en appris bien plus que je n'aurais dû en savoir. En novembre 1953, libre de tout engagement et mon dernier roman achevé, je repris l'enquête à mon compte et me rendis moi-même à l'URSS. L'enquête dura 16 jours. Quand je revins, j'avais résolu l'affaire. Je le dis au directeur de Carrefour, Amaury, qui me crut. Je le croyais également. Et j'en demeure persuadée. On sait le drame. Drummond, sa femme et sa fille, Lisbeth, avaient été assassinés sur la Grande Terre à 1 kilomètre de l'URSS par un ou des inconnus. La Grande Terre appartenait à la famille Dominici. À l'époque dont je parle, on accusait Gustave Dominici, l'un des fils, parce qu'il reconnaissait avoir, le lendemain du crime, vers 5 heures du matin, trouvé la petite Élisabeth encore vivante sur le sentier qui menait au pont. On s'étonnait beaucoup que les Drummond eussent choisi pour camper cet endroit entre une voie ferrée et la route parcourue de jour comme de nuit, dans un paysage sauvage, plein de retraits et d'asiles. On n'y comprenait rien, après un an. Mais dans la version officielle, l'Anglais était une sorte de savant et de héros, ancien haut fonctionnaire du gouvernement britannique, chargé de la branche parachutage en 1944. Nul ne mettait en doute son intégrité. Or, j'avais appris dans le Nord que ce saint vivait du chant. C-H-A-N-T. Deux collègues, plus vieux que moi dans le métier, comme le grand reporter Salarden et, par mes propres recherches au cours de mon année de reportage, j'avais pu vérifier que l'Anglais, en effet, passait toutes ses vacances avec sa femme et sa fille dans des régions, Hollande, Alsace, où de fortes sommes d'argent furent parachutées au centre de résistance entre les mois d'avril et de juillet 1944. Puis, il avait toujours très peu d'argent sur lui. Et, après le triple meurtre même, on avait retrouvé d'autre argent dans les affaires d'Élisabeth qu'un billet de 5 000 francs, bien que l'hypothèse du vol n'ait pas été retenue. Conclusion hasardée. Drummond comptait trouver sur place les subsides nécessaires à son séjour en France. Elle semble confirmée par la visite éclair de Scotland Yard le lendemain du crime à la police de Marseille. Consigne, bouche cousue. À Digne, j'appris, comme prévu, que plusieurs millions parachutés en juin 1944 n'avaient jamais été retrouvés, que plusieurs notabilités avaient effectivement acheté de nombreux terrains à la Libération et que certains de ces enrichis, en compagnie de Clovis, un fils Dominici rejeté par sa famille, avaient largement festoyé le lundi même du meurtre. À connaître ces gens, car je les visitais tous, je ne doutais plus de leur réaction si un maître chanteur était venu les trouver 8 ans après le parachutage prétendument requis par son gouvernement pour recouvrer l'argent dilapidé ou découvrir ce qu'il était devenu. Mon enquête me donna 5 certitudes. Premièrement, le campement des Anglais ne s'était pas dressé sur la Grande Terre, mais à 1 kilomètre de là, sur un petit pont qui séparait le mont de l'Urs du mont de Gonagobie. Des témoignages de chauffeurs de camions tout au long de la nuit confirmaient ce point, ainsi que le demi-témoignage du supérieur de Gonagobi, un brave abbé, terrorisé par l'ampleur de la tragédie, mais lié, disait-il, par le secret de la confession. Deuxièmement, l'Anglais avait eu rendez-vous à Digne, après une corrida bidon, qu'il dut quitter avant la fin, avec un messager chargé de lui donner rendez-vous précisément dans ce monastère, mais qui, l'attendant sur le chemin de Gonagobi, l'avait détourné de sa route pour l'amener à la maison où les meurtriers continuaient de boire. Troisièmement, ceci était au nombre de 7 ou de 6, je n'étais pas sûre du 7e, enivrés à la fête pour se donner du courage. Ils avaient, par accident peut-être, blessé Drummond à la main avant de le tuer avec le même fusil. Mais l'Anglais n'était mort qu'une demi-heure plus tard, en même temps que sa femme, assassiné 2 kilomètres plus loin, sur le pont de Gonagobi. Quatrièmement, la fillette, gardée en vie d'abord, n'avait été assommée que plus tard et transportée moribonde jusqu'au bas de la Grande Terre, où le campement des Anglais était réinstallé tout au long de la nuit selon un rythme que racontaient les passages des camions. Cinquièmement, la police paraissait avoir reçu quelque ordre de négliger tous les indices révélateurs. Le silence du chien la veille au soir, le nombre des douilles retrouvées qui ne correspondaient pas au nombre des coups tirés, le sang de lapin répandu, le déplacement des corps, les contradictions sans nombre touchant la présence des Anglais sur la Grande Terre la veille au soir, etc. Malheureusement pour la police, Gustave Dominici, inquiété par un éboulement, était vraiment sorti de sa ferme très tôt le matin, alors que la mise en scène s'achevait. Il avait ainsi appris toute l'histoire et menacé de dire la vérité s'il venait à passer en assise. Du coup, le « témoin noir » qu'il avait reconnu, disait-il, sur la route au milieu de la nuit, n'était plus sûr de son témoignage, et le tribunal correctionnel réglait provisoirement l'affaire en condamnant Gustave à 2 mois de prison pour défaut d'assistance à personne en danger. En ce mois de novembre 1953, où se situe mon enquête, on arrachait au vieux Dominici, Gaston, de bien étranges aveux contredits par les faits. Note en bas de page. Pour ne citer que ces 2 contradictions, c'est en voyant Lady Drummond se déshabiller que le vieux bonhomme aurait perdu la tête. Or, le cadavre de Lady Drummond a été découvert vêtu. Puis, comment concilier le crime d'un sadique voyeur avec l'assassinat de la petite Élisabeth 3 ou 4 heures plus tard? Mais ce sont tous les indices retenus et tous les témoignages admis qui présentent ce caractère d'invraisemblance. Un an plus tard, on le condamnera à mort. Avec lui, on ne risque rien. Il ignore tout. Au procès, le président fera scandale en ne laissant même pas Gustave répondre au cri de son père. « Tu sais que je suis innocent. Dis ce que tu sais !» Mais dépassé sans doute par l'énorme imposture, le président s'oubliera jusqu'à faire remarquer au « témoin noir » qu'il ne peut pas avoir pris pour ce vieillard de petite taille le grand et fort Gustave, à quoi le témoin, sans se troubler, répondra en plein tribunal qu'il sert la police depuis trop longtemps pour craindre quelques représailles et que, d'ailleurs, il porte la Légion d'honneur. Quant aux douilles insuffisantes, aux chiens silencieux, aux rendez-vous de Digne, aux témoignages des chauffeurs, aux pères bénédictins, aux millions disparus et au sang de lapin, etc., il est bien évident que personne n'en parlera, ni même de l'affolement des femmes Dominici, découvrant un campement et 3 cadavres, là où la veille au soir, il n'y avait rien eu. Jean Giono publiera seulement son beau livre, où il démontrera que les 20 mots de français des paysans de la Durance ne leur permettent pas de se défendre devant un tribunal, ce qui est vrai, et l'on n'osera pas tout de même exécuter le vieux Dominici. coupable, au regard de la loi, de 3 assassinats, dont celui d'une petite fille. La peine de mort sera commuée en prison à vie, et le général de Gaulle graciera le vieil homme. Il s'en reviendra mourir chez lui, dans cette même ferme qui, 20 ans plus tard, devenue un restaurant fameux, attire, me dit-on, les touristes. Mais le gouvernement de la Ve République ne remettra pas en question l'un des grands crimes de la Quatrième, car les républiques changent et les empires, mais les impostures deviennent de l'histoire. Pour moi, j'avais été menacé par Clovis et sommé par lui, le fusil en main, de dégringoler l'échelle qui tenait lieu d'escalier dans son logis vétuste. Puis, menacé d'un revolver, dans une administration de Digne, où, par bonheur, des dactylos, au-delà de la porte du bureau, m'assuraient d'une relative sauvegarde. Puis, menacé par la police de Marseille, par l'intermédiaire d'un collègue de François, qui me faisait savoir que ça suffisait comme ça. J'avais écrit pourtant ce que je voulais écrire. 3 longs papiers, dont Amaury publia 2 dans son hebdomadaire, mais, informé sans doute lui aussi des problèmes réels qui se posaient, il ne put rendre public le 3e, qui contenait mes conclusions. Il gardait de moi, tout de même, l'image d'un reporter consciencieux et ne me refusa aucun reportage dans les 7 ou 8 mois où je travaillais pour lui. Ce fut seulement à la fin de 1954, après la condamnation du vieux Dominici, que je donnais aux « Lettres nouvelles », la revue de Nadeau, un exposé complet de l'affaire. Mais il fallut que ce fût sous la forme d'un rêve, et tout cela n'était-il pas comme un cauchemar après tout? Petit 3 de Un homme en creux. Dominici est mort de sa belle mort, si quelque mort peut être belle, et les fantaisies de quelques écrivains n'auront été que d'heureux départs, en somme. De quelle importance sont les cauchemars? Il y a mieux, ou pis? Quelle consistance ont-ils? Je crois connaître la femme de lettres et le lecteur qui ont fait Françoise Sagan. Mais ne m'a-t-on pas menti? Pourquoi me faudrait-il croire un délateur, suspect de partialité, d'envie ou de jalousie, plutôt qu'une fille charmante, hautement libérée et réelle jusqu'aux ongles? Hervé Bazin, d'abord, s'est appelé Jean Hervé. Je me suis bien fait nommer Jean Nol. Le diable, déjà, en ma 20e année. N'aurait-on plus le droit de prendre un pseudonyme? J'ai vu quelques photos qui montraient un objet, un canot pneumatique ou un paquet de linge châle, embarqué sur un yacht, au nom caché à demi, tandis qu'un autre bateau, arrêté, se remarquait au coin opposé de la photo. Qu'est-ce que cela prouve? Le vieux Gaston s'est toujours proclamé innocent. On sait que son aveu, toute tension relâchée, au terme de 22 heures d'âpre interrogatoire, ne lui fut qu'arraché, dans la langue du pays, par un ami d'enfance, toutefois assermenté, il était garde champêtre, et tout de suite rétracté dans la traduction. On admet que son procès, tous détails oubliés, 28 mois après le drame, fut l'une des plus risibles et tristes parodies de notre histoire judiciaire, car en d'autres pays, le Congo ou la Grèce, l'Espagne ou l'Iran, il s'en passe d'autres. Mais qu'en déduire? Ne suis-je pas moi-même incapable de décider si France, un jour de juin 1952, m'a fait rouer de coups ou non? Ou de savoir, au-delà de sa mort inexplicable, si elle était tuberculeuse ou non? Est-il une preuve indiscutable, et de quoi? Comme cette évidence m'atteignait enfin, toutes mes anciennes justifications du mensonge social, du jeu et du mot me revinrent à l'esprit. Elles n'avaient été que théoriques, naguère. Vécues dans l'instant et jour après jour, elles me parurent prendre un tout autre sens. Le pire n'avait pas été l'affaire Dominici, triomphe de l'ambiguïté, mais le procès, le plus clair et le plus dénudé, dans la sordide salle des assises de Nancy, où, entré par hasard, seul reporter de Paris, j'avais entendu et vu condamner un meurtrier indiscutable. L'homme vieux parlait à peine français. Je ne connais son histoire que par l'acte d'accusation et les questions sagaces de cet autre fossile, le président des assises. S'il avait pu se raconter lui, l'homme, qu'aurait-il dit ? Rien de plus, peut-être, car tout tenait en quelques faits. Fuyant sa patrie, la Hongrie, à l'arrivée des Russes, il s'était réfugié en France. Un pro-allemand ? Était-ce cela surtout qu'on lui reprochait ? L'acte d'accusation n'en disait rien. Pour vivre en France, il faut un permis de séjour. Pour l'obtention de cette pièce, un permis de travail. Et pour l'obtention d'un permis de travail, un permis de séjour, sans fin. Le reste était écrit. La vulgaire chasse à l'homme d'une frontière à l'autre. Chassé par la Belgique, il reparaît à Toulouse. Expédié en Espagne, il se retrouve à Dijon. Dirigé vers la Suisse, dans une ville du Nord. Un vol de bicyclette, quelque part, près de Nancy. L'accident bête, car le moment vient où les destins semblent abdiquer, pour passer la main aux États. L'hôpital, l'évasion, la faim, qui à la longue prévaut. L'homme s'est caché dans une grange pour y passer la nuit dans le foin. La grange communique avec la salle de ferme par une petite lucarne. L'homme voit le paysan, un vieil homme, seul aussi, préparer son repas puis sortir de la ferme. L'homme va dans la cuisine. Il y vole du sucre. « Combien de morceaux ?» a demandé le président, qui se voulait un juge renseigné. Le paysan revient, surprend le rôdeur. Il arme son fusil, hors d'usage, paraît-il. L'homme cherche une protection et trouve une grande hache. Il l'abat et tue. Verdict, la peine de mort. Cette sentence-là sera exécutée. La société où je vis, dont je suis l'un des membres, a résolu le problème. Son problème, ce n'est pas le mien. Je ne me reconnais pas dans cette société. Alors, de quel autre ? J'ai été catholique et presque moine, socialiste en 1939, marxiste à la Libération, puis agnostique, puis franc-maçon. Je ne dirais pas qu'en nul système je n'ai trouvé d'humanité. Les traités et manuels, les discours en regorgent. Mais en tous, l'honnête homme, s'il n'est une grâce du ciel, se présente comme un exemple rare, ou comme un miracle pour athée, très comparable au coup heureux dont s'alimente la passion du joueur de dés ou de poker. Comme si les anges eux-mêmes ou les démons jouaient aussi une partie proprement inhumaine dont nous ignorerions les règles et les mises. Ce n'est donc pas la faute des tricheurs si le monde où nous vivons se bâtit de cartons-pâtes ou de matériaux fictifs. Mais peut-être y a-t-il dans la tricherie à droite une sorte de justice ou de vengeance, pour employer un mot moins noble, en faveur de tous ces malheureux, j'en fus, qui souffrent sans tourment sur un texte imparfait, nourri de bonnes intentions, pour s'entendre dire que leur style manque de sincérité, ou de ces désespérés qui ont cru que la tendresse devait leur ouvrir un cœur quand ce cœur ne pouvait se troubler de leur maladresse. Dans mon enfance et mon adolescence, j'avais redouté les dictateurs, nommant ainsi le maître d'école et la concierge, le percepteur, l'adjudant et tout adulte nanti du plus petit pouvoir. Mais les tyrans eux-mêmes sont captifs de leur boîte. Ils ne sont pas en haut, car il n'y a pas de haut dans la quatrième dimension. Comme l'innocent pris dans les murs dont ils ont su faire l'univers, ils ne sont que du côté des décors et du manche. Ni le malin, ni le naïf ne quittent la cellule, le système, la boîte qu'ils nomment l'univers. Mais le second, le naïf, y défaille, quand le premier, le malin, s'y réjouit. Il n'y a donc pas, d'une part, l'innocente victime et de l'autre, le bourreau, que sépareraient quelques lignes imaginaires, comme les blancs le sont des noirs sur l'échiquier, car la réalité ignore le plan. Juliette et Justine ne sont qu'une, Hyde et Jekyll, ou France et Alice, Pigobert et Jean-Baptiste. Mais il y a des mobiles lancés l'un contre l'autre, dont l'un sort du passé ou de son âme secrète et court aveuglément vers la peur du lendemain, la peur de la damnation, la peur de l'entropie, la vieillesse et la mort, quand l'autre vient du possible, du jeu et du hasard, de la technique simpliste et de la froide abstraction, pour aller ajouter une pierre au décor dont il sait le faux-semblant et la nécessité. Il me semble aujourd'hui que je n'ai pas montré assez de reconnaissance au Bazin, au Bombard, au Sagan, au Sébeille, pour m'avoir découvert la seule vraie vérité. Que la vérité n'existe plus si elle a jamais existé. Que la réalité n'est pas vraie et qu'il s'agit de toute autre chose. Elle ne s'accomplit que dans l'instant. Impossible une minute, ou plus tôt, ou plus tard. Dans l'affaire Dominici, il eût suffi que les responsables de la police de Marseille fussent mis en accusation un peu plus tôt. Dans l'affaire Bombard, que le conflit entre les constructeurs de l'hérétique s'orienta différemment. Dans l'affaire Sagan, que Julliard mourut un peu plus tôt. Dans l'affaire Bazin, que Grasset revint chez lui un peu plus tard, car Blanza ne jouait pas avec la chose écrite, de sorte qu'on pourrait nommer le premier roman de Bazin « Vipère au point, point avec un T et non pas un G », etc. Mais venant après ma longue quête personnelle, qui m'avait révélé l'inexistence de l'âme et du passé causal, mon expérience de reporter ainsi me révélait l'inexistence d'une réalité formulable, d'une réalité objective. C'en était trop. Vide, je me mouvais dans un désert. Qui peut vivre entre deux néants? Grand 3 de Un homme en creux, petit 1. Comme toujours, ma pensée devançait ma vie, si bien que j'avais de la peine à m'accepter moi-même. Le 4 et le 6 janvier 1954, j'ai noté ma double découverte. Premièrement, des boîtes, comme je nomme le monde social, ou plus brièvement la cité, recréation d'une troisième dimension factice. Deuxièmement, d'un conflit permanent du « je » qui se situe à la fois dans cette vie imposteuse et dans quelque autre chose, guillemets, que nous révèle le poème et l'amour, par exemple, ou la maladie, le vice, et que nous ressentons d'abord comme une inexistence, fin de guillemets. De sorte qu'en fin de compte, guillemets, tout ce qui sert la société sert la cause du temps, le temps causal. Tout ce qui dessert l'une dessert l'autre. Fin de guillemets. Mais quand j'écris ces phrases, sûrement, je n'y vois guère qu'une nouvelle expression de l'antinomie adaptation-évolution, ou de la plus grande et la plus petite probabilité, sans comprendre qu'obligatoirement les boîtes, illustration de la troisième dimension, sont contenues dans la quatrième, et que, par suite, ce qui domine en celle-là, au pluriel, celle, deux points, le mensonge, le truc, ne domine pas de même, certainement, en celle-ci, celle-ci au singulier. Conscient de la faute de Jean-Baptiste, 11 jours plus tard, Pigobert le ramène en des voies plus précises, guillemets, suite des notes prises par Jean-Charles Pichon à l'époque, guillemets. Le 17 janvier, lu vol de nuit, de Saint-Ex, qui a enthousiasmé Christophe. Note, Christophe est le fils aîné de Jean-Charles Pichon. Point. France, errant par les chambres. Elle n'a rien mangé depuis 4 jours. Irritabilité assez vive, petite scène, déjà, parce que j'ai parlé d'aller jouer aux boules aux arènes. Note, en bas de page, les arènes de Lutèce, j'y retrouvais chaque dimanche, Paulan, Bay, Nadeau parfois, Toesca, Guérin. Reprise du texte, son attitude vaut la mienne. Gageurs insoutenables qui ne peuvent entraîner qu'à la catastrophe et les enfants avec nous. Une chance de salut, sa mort ou la mienne. Je le pense calmement, sans fureur ni désespoir, sachant très bien qu'il ne m'appartient pas de choisir, ni à elle. Ressentis une profonde horreur pour mon nom. Fin de guillemets. L'aveu a terrifié Jean-Baptiste. Quand Pigobert ressent cette profonde horreur, Baptiste, par expérience, sait que la mort peut suivre, ou quelque tentative, un jour nécessairement couronnée de succès. Pendant près de 6 mois, il se tiendra tranquille, oubliant à la fois sa quête et son angoisse dans l'ombre du grand Pigobert, oubliant également, hélas, la pitié, à défaut de l'amour qu'on doit aux siens. En dépit de la misère qui menace tous les jours et nous accable dès que je reste 8 jours sans écrire un article, en dépit de 20 dettes énormes qui nous submergent peu à peu, du théâtre au congé spectacle, à la sécurité, au successeur de France Jourdan, qui se prétend voler, car on ne cède qu'un pas de porte et non pas le talent, ou de la maison, les dettes au jour le jour et celles des pensions des garçons et de Chantal, les garçons et Chantal, ce sont ses fils et sa fille, ces 6 mois seront assez paisibles finalement, témoignage de l'égoïsme auquel je suis parvenue. Je ne reproche vraiment qu'une action à ma femme. C'est en janvier qu'elle a voulu que Christophe, Chantal, Michel soient pensionnaires. À Bossuet, les garçons, dans l'espoir de Stanislas, à la retraite de Redon, la fille. C'est en janvier que, pour la première fois, j'ai pensé que l'un de nous deux devait mourir. Depuis mon enfance, je crois, le mot pension me terrifie. Je ne puis pas songer sans une envie de vomir au sentiment de solitude et d'abandon que doivent éprouver mes 3 enfants brusquement arrachés à nous. J'avais le droit de résister, sans doute. Mais le pouvoir? C'est Baptiste qui saigne, et il n'existe plus. Ah, Pigobert, le joueur, tout est indifférent. Quand il a de l'argent, il en donne, sinon il laisse courir. Ma maîtresse, la plus constante, est à nouveau la grande et douce Anglaise, Cécilie, reprise et quittée 3 fois en 4 années, intellectuelle aussi, comme la plupart de mes conquêtes. Elle est l'auteur d'une remarquable anthologie anglaise des poètes français contemporains et d'un roman que le traducteur de la NRF a massacré et que je traduis à mon tour. Mais une intellectuelle sans orgueil, espèce rare. Masochiste, étant femme de lettres, mais gentiment, par-dessus le marché, bien qu'elle souffre de ce petit vice comme d'une indélébile souillure. De rares bons souvenirs de cette époque, des sympathiques regains de présence qui m'en reviennent, la plupart lui sont dus. Une promenade à deux, marché de Clichy, les mets qu'elle me découvre me révélant gourmand, certaines odeurs, un bruit, dont j'ignore la cause dans le silence des heures qui se prolongent parfois après une brève étreinte. Un voyage au Touquet, en août, où je l'emmènerai pour un reportage pluvieux. Ce n'est pas la passion, je n'en ai vécu qu'une seule, mais ce peut être de l'amour ou de la tendresse, plus probablement. Pourtant, je ne lui suis pas plus fidèle qu'à ma femme. Non pas que je drague beaucoup, du mot que j'invente alors ou peu après, pour dire la quête des filles dans cet ensablement nauséabond des rues. Note en bas de page. Je ne l'utiliserai que 4 ans plus tard pour titrer un scénario que j'écrirai avec Moki. Ou si je drague, c'est pour rien souvent. Une petite brune charmante m'a retenu quelques jours. Puis, après la deuxième ou troisième promenade, elle m'a dit « Faites-moi ce que tu veux » et je l'ai ramenée chez ses parents. Pigobert peut se plaire à ces sacrifices-là. Qu'on lui cède, c'est assez. Mais de nombreuses villes portent dans ma mémoire des noms de femmes ou de filles. Libourne, Simone. Nancy, Clairette. Calais, Nicole. Tours, Maude. Le journaliste, comme le marin, est attendu dans chaque port. Simplement, il y jette l'ancre moins souvent. Pourquoi ces aventures ? Je l'ignore. Je parle de désœuvrement, car je travaille très peu. Un article par semaine, en moyenne, pour Carrefour ou pour les lettres françaises, plus tard, le sens politique me faisant entièrement défaut. Le plus grand nombre de ces enquêtes m'entraîne hors de Paris. À Saint-Jean-de-Luz, un conflit entre des pêcheurs. Près de Draguignan, une vierge qui saigne. À Boulogne-sur-Mer, une autre apparition. À Dijon, un procès. Mais il arrive qu'à Paris même, je trouve ma pâture. Le reportage sur la foire du trône, qui me vaudra le titre de « Prince de la brocante », ou le reportage sur les clochards, qui me fait un clochard moi-même, car il me faut coucher sur la péniche de l'armée du salut et, dans l'un de ses hôtels, découvrir comment l'armée rançonne les pauvres. Tout lui étant donné, quand elle vend jusqu'au droit de dormir dans un lit. Et il me faut coucher dans la salle d'attente de la gare de Lyon pour vérifier le truc le plus usuel des clochards, le billet qu'on se fait rembourser à l'aube, son train prétendument raté. Les pauvres ont leur truc comme les riches, bien que la nécessité seulement les leur impose, non pas la volonté ou le rêve d'être le plus fort. Illusion pour illusion, je garderai celle, moi, de m'être mis dans leur peau. Mais, en dépit de mes loques, je n'y suis pas entrée. Il me suffit pour m'en convaincre de me rappeler la fille boulevard du Montparnasse qui m'a invitée à la suivre et que j'ai suivie, émerveillée. Ou le festin qu'on m'a servi à l'Alsacienne de Saint-Michel, de l'apéritif jusqu'au cognac, avant que j'avoue mon dénuement. « Vous appelez les flics ? Fous-moi le camp !» De ces hasards heureux, je déduisais que les putains étaient de bonnes filles et que le clochard pouvait se nourrir très bien s'il le voulait. Naturellement, c'est faux. L'habit ne fait pas l'homme, même s'il fait le moine. Le mot n'est pas de moi. Il est de Blaise Cendrars, auquel je dois le rendre. Le vieil aventurier, le plus fumiste aussi, vivait alors derrière la prison de la santé. J'étais allé le voir, en même temps que d'autres célèbres, pour une enquête sur l'écrivain et l'aventure. Mais des célébrités que je contactais alors, Blaise fut la seule que j'éprouvais le besoin de revoir. Il prenait son ou ses petits blancs dans un café auprès de chez lui. À notre deuxième pochade, on se disait « tu » déjà. Il me racontait ses blagues énormes, ses grands voyages imaginaires et les quelques miracles qu'il avait soutenus. Une fois au Portugal, son livre, « L'or », en vitrine d'un tout petit libraire dans une traduction pirate. Ça tombait bien, j'étais raide comme mes godasses. Le chantage avait été payant. Il ne croyait pas en Dieu, mais peut-être dans les dieux, bien que nous n'ayons jamais parlé de cela. Guillemets. On nous donne parfois un coup de main, disait-il. Et après tout, c'est vrai qu'on nous le doit bien. » Fin de guillemets. Petit 2 de Un homme en creux. Alors pourquoi n'en donne-t-on pas à tous? Est-ce que les dieux eux-mêmes feraient une distinction entre les beaux messieurs, les habiles hommes, les artistes, les écrivains, les grands marioles et tout le reste de l'humanité? Est-ce qu'il existerait des hommes dès le berceau à l'irréversible malchance et qui ne pourraient s'en sortir qu'en jouant aveuglément le jeu social? Une fois encore, il reste la chance d'un autre jeu, J-E-U. Que j'y venais lentement, mais réellement cette fois, j'en trouve une preuve, réduite, car je ne suis pas un maître en ce domaine, dans les petits textes que parallèlement à mes reportages je composais alors, selon des techniques que je nommais initialiques et perverses. Raymond Roussel, puis Robe Grillet leur ont trouvé d'autres dénominations. Mais en 1954, je n'avais pas lu Raymond Roussel et le nouveau roman pissait dans ses langes. Du style perverti, de nombreux ouvrages de moi peuvent servir d'exemple depuis la première partie de l'autobiographe, note de la lectrice, c'est un des romans autobiographiques de Jean-Charles Pichon. Depuis la première partie de l'autobiographe, j'en reparlerai, jusqu'à l'annexe de « Celui qui naît » 10 ans plus tard. Mais l'une de mes premières tentatives réussies en est la nouvelle « Rayures d'ombre » que je dus écrire cette année-là, bien qu'elle ne fût publiée que plus tard, dans « Les nouvelles » de Julliard, réunies par Malet Joris. Cette technique consiste à ouvrir plusieurs livres à une page donnée. Je menais la difficulté plus tard jusqu'à choisir un paragraphe, le 3e par exemple de la 75e page, et à recopier mot pour mot la phrase ainsi désignée. De manière irrationnelle, mais à chaque fois vérifiée, les trouvailles s'emboîtent en un texte suivi, hautement littéraire, bien que nécessairement baroque. La technique des initiales se présente tout autrement. Elle consiste à inventer une phrase qui peut être copiée aussi comme « Talent perdu sans collier » à l'imitation d'un titre de Cesbron. Puis, de chaque lettre de la phrase, je tirais le début d'un mot dont l'ensemble produisait une manière de poème. Par exemple, du T et du A de talent. Je formais les deux mots « tenace, ami » qui ouvraient le poème préalable. Au second degré, il me donnait les deux vocables initiaux des deux premiers paragraphes d'un long texte. Une des nouvelles écrites selon cette technique, « tenace, ami », précisément, apparut à Maurice Nadeau, assez remarquable pour qu'il la publiât dans ses lettres nouvelles, dont je ne saurais plus dire s'il en savait l'élaboration occulte ou non. Or, il se trouve que Rayures d'ombre d'une part et Tenace ami de l'autre sont parmi les textes de moi qui, à la fin, m'ont fait admettre dans la jungle littéraire de Paris, parce qu'on y reconnaissait le ton de l'authentique. Et il est vrai que ces textes m'expriment entièrement. Je ne dis pas que tous les hommes de lettres soient capables d'être des écrivrons qui forgent les mots comme d'autres le font, avec le matériau qui leur tombe sous la main, l'outil dont ils disposent, mais je crois, sans pouvoir le prouver, que de très célèbres académiciens ont écrit leur roman en panne d'inspiration par la méthode initialique. Je ne parle plus seulement de Roussel. Et que les plus beaux textes de Lautréamont, Rimbaud, Jarry, Vacher, Crevel, Zara, Éluard, Desnos et Boris Vian doivent beaucoup à la technique perverse. C'est encore une fois le miracle pour athée que le matérialiste à l'improviste découvre au détour du chemin. Ces techniques semblent insignifiantes, elles le sont si peu que, transposées au plan amoureux, elles m'ouvraient des dizaines de portes que, pour la plupart, je m'empressais de refermer. Elles rappellent par plus d'un point les jeux maso-sadistes, et c'est vrai que la carmige demeurait pour ma part une technique éprouvée parmi les femmes de lettres surtout, plus ou moins toutes masochistes. Mais les jeux du fouet me devenaient inutiles. Un regard me rendait maître, un regard me livrait. Il y avait d'autres méthodes. L'abstinence sexuelle pendant 3 ou 4 jours, quand je voulais vaincre. La satisfaction, fût-ce par le jeu solitaire, quand le moment était venu de rompre. Puis ce jonglage, si simple, que j'hésite à le démontrer. Une première attaque, la plus directe, est rarement suivie d'effet. La proie s'enfuit, mais elle revient toujours. C'est à la reprise, appel téléphonique, réunion chez amis ou trop précis aveu, qu'il faut savoir ce qu'on désire, ou poursuivre, ou laisser tomber. J'ai tourmenté bon nombre de vertueuses, ou qui eussent voulu l'être, pour savoir jusqu'où allait leur sainteté. Le plus souvent, la pure s'est repentie de me céder, car, hors sa volonté de sagesse ou de vertu, rien ne me troublait en elle. Quelquefois, une de ses filles, satisfaite, me déclarait « Toi au moins, tu es un homme. »« Tais-toi donc, lui répondais-je, tu ne sais pas ce que c'est. » D'autres fois, rejetées comme amantes mes fidèles amies, car c'était celle-là que je préférais, je crois, une Noël ou une Anne, me disait « Quel type ! Sais-tu que tu n'es pas un homme ?»« Je le sais, répondais-je, qu'est-ce que je suis ?» Mépris de soi, dégoût de soi, même l'amour, de nos jours, n'est plus un alibi. Ou bien il faut vraiment vouloir être trompé. Mais enfin, Pigobert s'en fout. Il se fout de tout. Il ne prétend pas que les trucs apportent aux joueurs, aux techniciens des mots, un autre plaisir que l'étonnement du survenu, qui n'est pas le devenu, puisqu'il est neuf, ni le devenir, puisqu'il ne débouche sur rien, ni même qu'il n'exige pas un mépris assuré de la femme ou de l'œuvre. Il dit qu'appliqué au poème, les trucs rendent inutile l'angoisse de la création. Les trucs appliqués au jeu de l'homme rendent détestable l'angoisse de l'altérité. Les trucs laissent l'écrivain ou l'amant détaché de l'objet de leur désir et par suite libéré. Or, c'est vrai, tout est vrai. Françoise Sagan, Bombard, Dominici, Paul Guillou, l'assassiné de Nancy, les femmes masochistes et des donjuans salauds, les textes qu'on trafique, le procès qu'on escamote, les putains, les clochards, des trucages partout. Cette vie, Pigobert ne la juge pas mauvaise ou moins belle ou moins vraie, il ne peut comparer, il n'en connaît pas d'autre. Dans sa boîte personnelle, tout est comme ça aussi. Techniques littéraires et femelles, brûlées d'illusions ou de remords, qu'il suffit de manier pour leur donner à croire qu'on les a bien comprises. Il y a France surtout, qui n'a pas renoncé à sa propre ambition, être une grande malade, absoute par là même de son échec au théâtre de poche. La femme qui n'est plus une femme, la mère qui n'est plus une mère, une chose innommable ou ineffable, comme on la voit, indescriptible, qu'on croirait sans une volonté et qui n'est plus qu'une volonté, celle d'imposer son univers à tous, par l'un de ces inconcevables retours dont les destinées sont friandes, une Beckett femme, en quelque sorte. Son meilleur ami depuis l'automne passé est un inspecteur des assurances sociales que je trouve souvent dans notre appartement le soir et qui me regarde de très haut, dans l'attente et la trouille de mon poing dans la gueule, dont ma femme peut-être l'a menacé. Un héros, mais il ne le sait pas, qui se prépare lentement à se décider à une action sans exemple. Une femme n'est-elle pas à sauver? Dans mon roman, Les clés et la prison, je l'ai nommé Louis. Gardons-lui ce nom. La dernière chance pour moi, pour nous, serait que Baptiste se réveillât. Il se réveille et crie, le 23 mai, après 4 mois de silence, guillemets. Pensez avec netteté cette nuit à l'obligation de vivre pour mon œuvre qui n'est pas commencée. Il y a près de 2 ans, l'écriture de Sérum et compagnie, que cette pensée ne m'était pas venue. La tension imposée à toute minute par la vie avec France, l'éparpillement du journalisme, l'habitude croissante de boire, de lire n'importe quoi, surtout des romans policiers, la peur de la solitude et de la réflexion, les soucis de toute espèce. Il faut que Baptiste se justifie. Tout cela, ou du moins mon attitude en face de tout cela, porte un nom. Le refus de l'avenir. Il y a 2 ans que je vis au jour le jour, dans l'enlisement de l'éphémère. Ma pensée de cette nuit a été un long cri de révolte, de l'être lentement asphyxié en moi, qui ne ressemble pas aux images que je donne aux autres de moi-même. Mais rien de perdu, si ces 2 ans m'ont au moins appris la patience. Fin de guillemets. Pigobert a détourné le cri. Il tient les rênes. Il tient aussi une réponse prête, ou sinon, il la trouve dans les 10 jours suivants, par une technique assez rouée et qui suffirait à prouver son impuissance à être dupe, il va rendre Baptiste amoureux. Tandis que le petit con le sera, il ne pensera pas au reste. C'est l'attendrissement obsédant, puis absurde, pour une jeune journaliste avec laquelle j'ai fait le voyage en Belgique. Je suis allée la retrouver à l'hôtel, dans sa chambre. Je suis entrée dans son lit. Et la joie m'a saisie brusquement, ligotée. Elle m'a supplié de ne pas lui faire l'amour cette première nuit. Pigobert s'est tiré en traître. Baptiste a murmuré, pauvre petite. Il n'y a pas eu d'autre nuit. Cette chair offerte, tendre, vierge, pour Pigobert n'aurait été qu'un jeu. Jean-Baptiste s'est senti fondre, car il y avait l'esprit aussi. L'âme était là. Suintante, irradiée en aura hors de la chair fragile. « Je t'aime, » avait-elle dit, et les yeux le prouvaient, d'une terreuse réalité, et le tremblement du corps sur le même rythme que le mien, que je n'ai jamais ressenti, ainsi, commun, que 3 autres fois. Guillemets, ne me retire pas ce bonheur. Moi aussi, je veux être maîtresse de mon caprice. Je le peux. Fin de guillemets. Lorsque je l'ai revue à Paris, où souvent nous sommes sortis ensemble dans un autre reportage, ses yeux noircissaient d'eux-mêmes, à nouveau insondables, remplis d'un désir brut qui faisait de cet abîme une autre profondeur. Toujours nous nous quittions à reculons, incapables de nous déprendre. J'ai aimé cette fille, hors de toute passion, hors de toute tendresse, ou de la passion et de la tendresse qui font l'amour. Au point de revivre la joie à chaque évocation de la tentative manquée, au point de m'humilier à rechercher ses amis qui pouvaient me servir d'intercesseur près d'elle, au point même de trouver le courage que je n'avais jamais eu et jamais n'aurais l'occasion d'avoir de dire à France « J'en aime une autre ». Elle ne s'en est pas relevée. Guillemets. Donc le journal de l'époque. Le 4 juin, 2 jours de joie intense, je le note pour ne pas l'oublier cette fois, ainsi qu'il m'arrive trop souvent dans les moments moins agréables. Je ne suis pas différent des autres. Ce besoin de calme dont je me gargarise, il est des plus factices. effort démesuré pour redevenir moi-même. Sitôt que je suis moi, le voyage en Belgique m'y a aidé. Besoin de vie, d'action, d'œuvre et d'amour. Tropisme naturel de l'homme vers la joie. Assez triste ce matin, par contre-coup prévu. M'évader, oui, mais pas n'importe comment, ni n'importe où. Adorable plaisanterie vieille de déjà 2 mois. La tentation de m'engager pour l'Indochine. Non pas l'attrait des cieux nouveaux, ni un goût soudain pour la guerre que je hais, mais la camaraderie, l'absence de tout souci, autre que celui d'obéir, l'occasion donnée du redéploiement. Trop facile. C'est ici qu'est le vrai combat. Dans la ville la plus chère du monde, avec la double nécessité de gagner de l'argent et de gagner la vie. Non pas la mienne, mais toutes les vies. Par quoi on devient un poète, et même un homme, gageur impossible, dont je ne dirai jamais qu'on peut la tenir, mais que, jour après jour, elle tient. Sentiment croissant du miracle, enfin, dont tout le prix est justement qu'il doit à toute heure s'abolir et qu'il ne cède pas, peut-être demain. Libéré de presque tout et parfois de moi-même, mais trop rarement encore. Fin de guillemets. Baptiste et Pigobert avouent à la fois leur défaite. L'un, Baptiste, n'espère plus en sa vertu. L'autre, Pigobert, ne joue plus de son audace. Le monde qui se referme sur eux se dissout aussi jusqu'aux étoiles. Et bien au-delà, jusqu'à ce point hors de l'espace, où les étoiles disparaissent dans l'invisible et dans l'intemporel. Je suis restée couchée 3 jours. France a rejoint Redon. Elle vit chez sa mère, qui la chasse, puis chez les sœurs, à cette retraite où notre fille Chantal achève ses 12 ans. À la même date, je suis entrée, portée par Pierre Lagarde, au quotidien L'Information, pour y créer la page de Paris. Les premières critiques de mon roman, Les clés et la prison, me redonnent un peu de confiance en moi.
Petit 3 de Un homme en creux. Nous nous retrouvons, à l'origine, Alice et Baptiste, face à face. Il n'y a pas à s'y tromper. C'est en toute connaissance de cause qu'elle me donne du Jean-Baptiste, soit au début, soit à la fin de ses lettres. Elle-même, démunie de son théâtre, obsédée de bourgeoise vertu, elle n'est plus France, l'artiste, que par raccro. Elle n'est plus qu'Alice, la bourgeoise. Quant à moi, par malheur, j'ai le meilleur soutien et le plus sûr. Pierre Lagarde, fin, racé, d'une intelligence rare et d'une paresse non moins remarquable, auteur de 14 ouvrages dont nul critique ne parle, ce qui nous rapproche encore, mais le continuateur de ces artistes libres qui se sont nommés Toulet, Fargue, Max Jacob, etc. À chaque fois que j'ai rencontré de tels êtres, Charles Friant à Rennes ou Odile à Paris, René dans la marine, Saï à la libération, j'ai cessé de combattre et je me suis soumis parce que je ne pouvais rien leur apporter, mais qu'ils étaient assez subtils pour ne pas me le faire sentir. Ne leur apportais-je rien, d'ailleurs, ce n'est pas sûr, puisque, sortis de ma vie, ils n'ont rien fait de la leur. Ils me devaient peut-être cet aiguillon d'une révolte qui s'articule, sans lequel aucune liberté ne se distingue de l'acceptation. À Charles Friant, moi, je dois le goût de vivre
et Thomas Mann. À Odile, le sens de la tenue et Rilke. À René, l'exigence d'une vertu royale. Charles Maurras et Saint-Ex. À Saï, la désinvolture active de l'aventurier intelligent. À tous, je dois la rigueur d'une parfaite amitié exclusive et fidèle aussi longtemps qu'elle dure. Mais à Pierre, sans bienfait, depuis l'apprentissage du 81 et le mépris des ignobles jusqu'à la saveur rare de la gratuité. Depuis des trucs si simples que je n'y avais jamais songé, comme de chasser les verbes auxiliaires de sa prose, jusqu'à l'unique voix que j'ai obtenue au prix interallié. Je n'allais tout de même pas contraindre cet ami maître à se saisir d'une plume pour pondre quelque article. Cependant, l'un des frères qui dirigeait l'information était aussi avare que Buchet, de Coréa, de sorte que nous ne pouvions nous payer des pigistes. Je remplissais la page de Paris à moi tout seul. Éditorial, enquête, un petit feuilleton que j'avais inventé, les nouvelles de faits divers présentées en deux lignes, plutôt calembouresques. Je travaillais de 7h du matin jusqu'à 16h. Puis, nous allions jouer au dé dans un vieux bar où venaient nous rejoindre des filles, des gens de commerce, des demi-durs. J'ai pris là, je le crois, je le sais tardivement, l'habitude des nocturnes. Note en bas de page. Nous devions revenir à l'information en fin de soirée pour la dernière main. L'habitude des nocturnes, le besoin des bars, qui ne m'asservira qu'en 1957. Mais à la fin, je gagne souvent, je gagne toujours, sinon contre la garde. Et ce n'est pas pour peu dans mon aise retrouvée, dont mes premières lettres désinvoltes portent témoignage. Du 16 juin, guillemets. Ma chérie, je ne t'ai écrit ni avant-hier ni hier, bien qu'hier ta lettre me soit parvenue. J'ai voulu réfléchir encore un peu, car je ne veux te faire aucune peine gratuite et non plus céder à une émotion passagère qui ne saurait être garante de notre avenir. Nous avons trop cédé, toi et moi, à de telles émotions qui, à chaque fois, remettez tout en question pour un résultat ô combien éphémère, etc., etc. Fermez les guillemets. Puis ce mot, moins apaisant que cruel, guillemets. Je voudrais, si dur que cela te soit, tendre à la vérité toute simple. Je ne souffre pas comme j'ai souffert jadis, pendant nos séparations longues ou brèves. Je n'espère pas vraiment revivre avec toi certaines journées anciennes, mais je ne rejette pas cet espoir, a priori, etc. Fermez les guillemets. Cependant, cette connerie même est bien de Baptiste encore. Pig n'est pas si borné. La lettre du 18 juin l'atteste, qui ne tend qu'à rassurer Alice, guillemets. Je t'écris hâtivement, après une journée très chargée, pour te faire part de deux bonnes nouvelles. Un article de Bazin sur 4 colonnes, guillemets, « Enfin, voici Pichon », etc., fermez les guillemets, et la publication demain dans la page parisienne de Pierre Lagarde de mon premier papier de la série « Silhouette parisienne » qui doit se poursuivre. Je publie aussi dans Carrefour, la semaine prochaine, un papier que je crois bon. Fin de guillemets. Des lettres manquent, mais le 26 juin, Alice m'écrit, guillemets, « Je n'ai rien de toi aujourd'hui et je m'en inquiète. Cela me fait d'autant plus mal d'être sans nouvelles de toi que... je me sens bien lasse parfois, inquiète et attristée. Je t'en supplie, unissons-nous bien fort pour nous en sortir. » Fin de guillemets. Quelques nouvelles des enfants suivent, même de Christophe, qui a donc rejoint Redon. Et il sert la messe. Guillemets. Alice de point. En ce moment, je suis un peu stoppée dans mon amélioration par une espèce de grippe contractée certainement pendant le voyage, mais aggravée par quelques imprudences, tu me connais. Et le climat n'est pas très sec. Je suis soignée par les religieuses de la retraite et entourée d'une manière absolument étonnante. Fin de guillemets. Le lendemain, elle me demande, me supplie même, de venir installer les enfants à Saint-Pierre, où elle a loué pour l'été et réclame de l'argent pour dédommager sa mère, d'une part, payer la location de l'autre. Puis, le 28 et le 29 juin, elle ajoute quelques mots à sa lettre fleuve, guillemets. « Je vais mieux. Je n'ai rien de toi et cela me peine. Écris-moi, pense à moi. » Aime-moi comme je t'aime, viens pour le départ à Saint-Pierre. » Fin de guillemets. Je peux me reprocher bon nombre de maladresses et même un certain crime, ne pas avoir compris alors combien ma femme avait besoin de moi. Mais je ne puis me reprocher l'horreur des mots. Est-ce qu'elle oublie que j'en fabrique ? En réalité, de sa part, c'est déjà l'inconscience. Ce l'est aussi de la mienne. Mes lettres me rappellent d'innombrables travaux, non seulement à l'information ou à Carrefour, mais pour une revue, La France Graphique, dont j'avais oublié jusqu'à l'existence et dont je ne sais plus très bien quels articles pouvaient y être insérés. Au début de juillet, je recense 3 chèques envoyés en 15 jours, de 15 000, 10 000 et 3 000, sur 12 000 francs de l'information. Je n'y suis que pigiste. Et 23 000 francs de Carrefour. Le procès Jourdan se poursuit au théâtre de Poche et j'en dis quelques mots. Il semble qu'un compromis puisse tout arranger. Petit 4 de Un homme en creux. Un peu plus tard, le 10 ou 12 juillet, j'ai obtenu 20 000 francs d'avance à l'information et je suis parvenue à en envoyer 30, mais le payeur des allocations est passé. France m'a demandé de m'inquiéter de son roman d'Assy et je lui affirme que je l'ai donné à des lecteurs, Morvan Lebec, Michel de Saint-Pierre, Lombrix. Cela ne signifie plus rien pour moi. J'invente au hasard sûrement. Le 14 et le 15 juillet, nouvelle lettre de ma femme. Si elle ne nous avait plus, les enfants et moi, elle serait sans courage. Elle m'aime, elle mange bien et régulièrement. Mon coup de téléphone l'a émue. Guillemets. Pour les questions financières, je sais combien il est difficile de faire des comptes pour autrui. Je pensais que tes rentrées de fin juin t'auraient permis d'étaler. Mais je n'ignore rien, mon chéri, de tes charges présentes et des difficultés de la vie économique. Tu es contraint de faire face à trop de charges en ce moment. Je veux, du moins, t'en enlever une. Veux-tu que j'aille près de toi, à Paris, afin de m'occuper de la cuisine, du ménage, de ton entretien ? Fin de guillemets. Quand Baptiste lisait de telles phrases, il sanglotait. Et les larmes m'en viennent aux yeux 19 années plus tard, car n'est-ce point là le signe de ce qu'on nomme la folie? L'intention coupée de toute réalité, la vertu nue en quelque sorte. Et qui peut rire de la vertu? Mais le 16 juillet, elle lit Racine. Guillemets. C'est un grand apaisement. Anne de Tourville est illisible. Fin de guillemets. Et combien d'autres? Il lui faut 70 000 francs tout de suite. Pigobert a éclaté de rire. C'est sauvé. Le 14 juillet, moi, je lui ai écrit pour lui faire part de mes derniers travaux, en dehors de l'information, où je ne remplis plus que les 3/4 de la page de Paris chaque jour. Une interview pour Art, qui ne paraîtra pas. et deux notes de lecture pour les lettres nouvelles. De l'espoir de travailler dans un nouvel hebdomadaire que Muller doit créer, il y fera seulement une chronique, et d'un article de Fréminville qui me place sur le même plan que Mauriac, Kérol et Robles. Puis Pigobert n'écrit plus. Il n'éclate que le 28 juillet. Mais c'est que France, l'artiste, l'aventurière, a disparu et que je m'adresse à ma belle-mère, Guillemet. Chère mère, j'apprécie votre désir d'avoir une grosse somme à la fois. Croyez bien qu'il est partagé. Malheureusement, ce n'est pas ce mois-ci que j'ai pu le réaliser, puisque sur 3 rentrées de 43 000, 20 000 avances du journal et 27 000 d'allocation, je n'ai pu vous envoyer que 3 fois 15 000 et 28 000 francs à France et à la retraite, l'école, pour la pension de Chantal, soit en tout 73 000 francs sur 90 000. Je vous remercie néanmoins de votre lettre, bien que j'eusse aimé qu'elle me donnât quelques nouvelles des enfants. Je n'en ai pas eu depuis des semaines, ou à tout le moins de France, qui, vous le savez probablement, ne m'a pas écrit un mot depuis qu'elle est partie de la retraite à la Sauvette, voici bientôt 8 jours, fin de guillemets. On ne peut plus parler d'indifférence. Je suis devenue la vache que, selon Pigobert, on s'attend à ce que je sois. De plus en plus, on me craint ou bien on me déteste. Le frère avaricieux, le véritable responsable de l'information en fait, me hait ouvertement depuis que j'ai tenté le geste de lui flanquer une gifle. Il ne me tend plus la main, mais sa canne quand je le rencontre dans l'escalier. Baptiste l'a saisi une fois. Il ne recommencera pas. Pigobert le tuerait. L'Harpagon de la Bourse a décidé, pourquoi, que je ne toucherai pas plus de 50 000 francs par mois dans son journal, mais il refuse de me considérer comme salarié. Les piges que j'écris m'ont rapporté plus de 60 000 francs en juillet. Elles me rapporteront 90 000 francs en août. Le directeur est fou de rage, mais la garde lui a dit que, s'il me renvoyait, il n'y aurait plus de pages de Paris et il ne sait que faire. Quant à la fugue d'Alice, la seule, en 14 ans d'union, je n'ai jamais su ce qu'elle fut, l'hypothèse la plus vraisemblable étant qu'elle a, ses jours, en un coin de Bretagne, rejoint son inspecteur. La fonction s'impose. Je ne croirai jamais qu'elle ait ressenti le moindre désir pour le petit homme que je nomme Louis. L'amour-propre n'est pas complètement idiot. Il a ses arguments solides. Petit 5 de Un homme en creux. Tout l'hiver précédent, ma femme avait misé sur ce Don Quichotte. En septembre, il lui fera savoir que c'est gagné et que le Sana de Cambeau veut bien la recevoir. Que s'était-il passé entre ceci et cela? Une disparition d'une quinzaine de jours, on fonde sa logique toujours sur le probable. Je n'ai pourtant confié ce soupçon à personne. Je ne crois pas qu'il m'ait effleuré, car France, me semblait-il, n'existait que par moi, comme je n'existais que par elle. Mais ce n'était plus vrai. 20 trahisons de ma part autorisaient la sienne. Il me faut admettre, sans plus, que je la détestais trop pour la croire désirable. Ne la caressant plus, je n'imaginais pas qu'un autre homme pût le faire. Puis je la croyais trop vertueuse et orgueilleuse de sa vertu pour céder à un tel caprice. Reste sa volonté. Je ne sais pas. Aujourd'hui même, une lettre d'elle, reçue en août, renouvelle mon hésitation, bien que le ton de cette lettre, apaisé, presque heureux, témoigne de la certitude d'une solution trouvée. Guillemets. « Mon chéri, je te demande pardon de ne pas t'avoir écrit depuis des jours. Je voudrais tant trouver les mots qu'il faut pour t'exprimer mon amour, ma tendresse, ma fidélité et ma reconnaissance. Je ne le peux pas encore, je suis brisée et il fallait que je le sois. Je reviens de Saint-Pierre. Je ne suis pas partie à la sauvette de la retraite, mon chéri. Je suis allée seulement essayer d'arranger des difficultés entre maman et la bonne. Aussi, je voulais alléger ton budget. Je comprends toutes tes difficultés. Elles sont les nôtres. Ne t'alarme pas. Ne t'inquiète pas. Je serai rétablie pour septembre, je te le promets. Il le faut absolument. Je me soigne. Je veux guérir pour toi et mes chers petits. Ils ont besoin de nous deux unis et de nos forces jointes. Fais ce que tu peux pour maman qui n'est plus jeune. Il faut se comprendre, se rencontrer et s'aimer et s'accepter. Je te parlerai un peu plus tard de mes difficultés de santé. J'ai eu quelques pépins. Mais ne t'inquiète pas. Il ne s'agit plus que d'un affaiblissement général dont nous aurons vite raison, etc. Fin de guillemets. N'ayant pas de soupçons, je ne demanderai pas à ma belle-mère, à mes enfants, si elle est bien allée les rejoindre à Quiberon. Mais ils ne m'en diront rien non plus, et aujourd'hui, quand je leur en parle, ni Christophe ni Chantal ne peuvent rien affirmer. L'explication qu'elles donnent de ce voyage est confuse, illogique. Comment une dépense supplémentaire eût-elle allégé mon budget? Elle a eu des pépins qu'elle ne commande pas, mais s'affirme certaine d'un mieux qui, dans son esprit, ne peut être qu'une cure médicale suivie. Enfin, jamais avant cette lettre, elle n'avait écrit le mot « fidélité », n'en avait éprouvé le besoin. Lorsqu'on se prend à douter, tout est prétexte à doute, mais il n'est d'autre preuve que celle qu'on s'est donnée. Dans mes derniers romans, toutes mes héroïnes seront des femmes infidèles, alors que les épouses d'Emmanuel, d'Arthur, de Sam et de Sérôme, si monstrueuses fussent-elles, ne l'avaient pas été. Pour l'esprit rationnel, ce ne peut être une preuve. Pour celui qui tient compte de toutes les réalités, il ne peut y en avoir d'autres. Notre raison nous trompe sans cesse. La création ne trompe pas. Qui vient des dieux? Grand 4 de Un homme en creux, petit 1. À mesure que j'approche du drame qui fut l'objet premier de l'autobiographe, note de la lectrice, l'un des romans autobiographiques de Jean-Charles Pichon, à mesure que j'approche du drame qui fut l'objet premier de l'autobiographe, que l'autobiographe n'a pas su dire, arrêtant son récit 9 ans trop tôt, et que mon esprit refuse encore, le même phénomène que naguère se reproduit. Je n'avance plus. Nous sommes le 4 avril. Les 60 pages précédentes ont exigé de moi 23 jours de travail incessant, 7 ou 8 heures d'écriture quotidienne et 10 ou 12 de pensées confuses tendues vers l'armature philosophique plutôt que vers le récit nu. L'autobiographe, naguère, s'est englué de même dans l'interprétation de l'éthique, celle de 1944, incapable de s'arracher au piège du système. Très bien, réglons le problème. On sait assez, hélas, que ce n'est pas le résoudre. Un être humain qui vit dans les 4 dimensions, qu'il ne peut nommer ou qu'il nommera par approximation le contenu et le contenant, le continu et le discontinu, ou le sujet et l'objet, le martyr et le bourreau, l'électromagnétique et le gravitationnel, l'onde et le corpuscule, ou de toute autre manière, depuis le surmoi et le ça, la paranoïa, la schizophrénie du psychanalyste, jusqu'au capitalisme prolétariat et orthodoxie ou déviationnisme du disciple léninien, l'une des dualités irréductibles à l'autre dans tous les cas.
J'ai fait, pour autant qu'un néophyte le puisse, le tour de tous ces problèmes. Ni philosophe de profession, ni physicien, ni disciple de Freud, ni disciple de Marx, j'ai seulement constaté l'échec, évident seulement de l'extérieur. Je sais qu'il s'explique toujours par la prétention de ramener le 4 au 2, le gravitationnel au corpuscule ou au quanta, et l'électromagnétique à l'onde, l'échec d'Einstein, la paranoïa au surmoi et la schizophrénie au ça, l'échec d'Adler, le prolétariat à l'orthodoxie et le capitalisme au déviationnisme, l'échec de Staline, etc. Mais, lucide sur ce plan, je ne le suis pas sur les autres. Je ne saisis pas clairement les quatre dimensions parce que je n'en possède que trois. Cela est pire, sans doute, car des trois dimensions physiques qui me constituent, une seule m'importe vraiment, l'épaisseur. Je ne suis pas un homme qui a de la surface, et ne le serai jamais. Si je parle, je méprise volontiers la syntaxe, et il ne m'importe pas non plus d'être compris. J'écris comme je parle, et l'on dit que j'écris mal. Ici encore, c'est une certaine beauté, un certain rythme intime qu'il me faut exprimer. Pour cette rhétorique-là, je donne toutes les grammaires et toutes les dialectiques du monde. Depuis peu, je complète ces vieilles préférences par celles de l'instant, que je nomme la présence, sur les deux autres phases du temps. Je me refuse à l'espoir, ainsi qu'au repentir, au regret, au remords. Ce me serait assez qu'être bien dans ma peau ici et maintenant. Pourquoi les traces écrites de ces moi me font défaut? Car on ne dit jamais que ce qu'on a été ou ce qu'on espère devenir. Mais cette épaisseur, cette rhétorique ou cette présence, je m'y livre entièrement, Pigue et Baptiste en un, car tous deux s'y prétendent maître. Baptiste y voit une continuité de soi-même, en quoi il se trompe probablement, et l'univers qui le contient, ce qui pourrait n'être point faux. Pigobert y voit l'unité qu'il recrée par jeu, son crime, et la rupture avec ce qu'il fut, sa supériorité. J'y retrouve donc les quatre que je ne puis saisir. Entre l'illusion de Baptiste, l'âme ou le passé, l'Adam crée, l'Adam A-D-A-M, et l'illusion de Pigobert, un contenant en morceaux modelable à l'infini. Je ne sais un autre pont que celui-là même que la société m'impose, une origine ou une vertu première qui tendrait à se manifester hors du chaos par la soumission aux lois, au catéchisme ou au progrès. Je le refuse et n'en trouve pas un autre. Par suite, je m'attache à me réduire en ce point, l'instant, où je pourrais proscrire à la fois l'illusion de la personnalité et l'imposture des solutions faciles, religieuses ou scientistes. Mais comment peut-on vivre morcelé dans le jeu, J-E-U ? Je m'assure que si l'imposture est jeu, J-E-U, elle ne m'irrite pas, elle est encore présence. Je ne la combats que sur le plan social, où elle prétend à reconstruire un autre passé, l'histoire, la causalité scientifique, ou un autre avenir, la vie éternelle, le plan. Et je m'affirme que le chaos ne me gêne pas. Je ne juge aucune action individuelle, seulement l'intention qu'il aurait suscitée. Presque toujours, l'arrière-pensée que j'y distingue, de gagner quelque chose, plus d'argent, le confort, la dignité, mais surtout de s'y gagner soi-même dans un avenir enfin fixé,
l'assurance sociale, la retraite, le succès, l'encadrement, la louange ou le capital. Car je sens, si je l'ignore, que gagner hic et nunc, ici et maintenant, ce ne peut être que perdre cette présence justement qui m'importe plus que tout. En bref, je suis comme un homme qui s'arrogerait le droit de s'enrichir de tout apport parce qu'il ne peut être trop riche et se refuserait de devoir diriger ses apports, de les conduire vers le moindre effort de synthèse parce que cette synthèse serait une tricherie. Mais si l'on rejette la dialectique de la passion et la grammaire de la personne, il ne reste plus que cela, l'objet que je m'approprie ou rejette quand il ne sert plus. Et c'est précisément à quoi les princes atteignent, les imposteurs et les filous. Pour moi comme pour eux, il n'y a plus que les boîtes, ou qui s'intègrent dans la mienne, ou qui s'efforcent de la contenir. Et je peux, à défaut de le devoir, refuser toutes sortes de contenants, si je me fais plus adroit, plus instruit et meilleur combattant que les autres. Je suis devenu malin, sans cesser d'être idiot. Prisonnier satisfait de la boîte que je me construis d'une vastitude rare. Petit 2 de un homme en creux. Bien que je l'ignore, je ne suis que mon propre fonctionnaire. Lorsque l'être s'abîme, il reste sa fonction sociale ou organique. On le voit assez par la manière dont les États traitent leurs citoyens. Mais on ne le voit pas moins par l'importance croissante que le sexe et la merde revêtent pour un Miller, un Bataille, un Artaud. Fonction contre fonction. Quelle est la plus abjecte, ou de la trop concrète, ou de la trop abstraite? Quelle est la plus asservissante et la plus destructrice, enfin? Ma femme nie ma fonction sociale. Elle ne me croit même plus un écrivain. Il y a trop longtemps que je peine pour le plus dérisoire des profits. Elle ne voit plus en moi que la merde, que je ne nie pas être également. À l'inverse, je lui refuse toute fonction organique. Elle n'est plus pour moi qu'à peine humaine, au point que Louis ne m'inspire aucune jalousie. Sur le plan social, sans doute, elle est encore l'épouse, ce qui entraîne pour moi certaines obligations. Mais je refuse le devoir, et je la refuse donc aussi. J'invente peut-être, je ne sais, les témoins manquent. En août et en septembre, je ne tiens plus de journal, et nos lettres s'espacent, détruites, comme je l'ai dit, en septembre sans doute. Car c'est alors, à son retour de la retraite, que ma femme classera notre correspondance et en remettra le dossier en dépôt à Madame Tual, la femme de ménage, qui nous est et nous restera une amie. Faute de témoins, ces jours m'apparaissent tronqués, troués d'actes absurdes, comme si, engluée dans la présence, je n'en pouvais même plus émerger pour comprendre ou seulement connaître. Exténuée par 12 heures de travail quotidien et 12 ans de combat, de recherches sans résultat, de passions impuissantes et de drames inépuisables, je ne suis plus qu'un rictus ou un ricanement. J'écris maniaquement des textes impubliables ou remplis un carnet de dessins pornographiques ou abstraits, non moins vils et ratés l'un que l'autre. Je fais encore des conquêtes, 2 en août, me semble-t-il, ou plus tôt ou plus tard. Une femme qui boit trop, et que je nomme gueule de bois, de ses initiales, GB. Une autre, écrivassière, que je nomme face de dos, de ses initiales phonétiques, F dos. Parce que la partie supérieure de l'être humain n'a pas moins d'importance pour elle que pour moi. De la démence de ma femme ou de la mienne, j'ignore quelle est la plus certaine. Deux fragments de lettres sans date, les premières pages manquent, sont tout ce qu'il me reste de notre dernier échange, vers les 8 ou 10 août. Il me semble atteindre à une perfection dans le refus de l'autre, dont notre union, de 14 ans bientôt, ne donne pas un autre exemple, de ma femme, guillemets. Je voudrais être ta maman, pour te conseiller de ne pas faire souffrir inutilement une autre maman. Je t'en supplie, reprends-toi. Et sache bien que notre conflit sans cause définie n'est entretenu que par des tiers. Fais comme moi, ne les écoute pas, car ils ne savent pas. Reprends-toi, reprends-toi, etc. Fin de guillemets. Car elle sait que je me fous du tiers comme du quart et que je ne cesse de crever de me reprendre. De moi, comme une pierre tombe lorsqu'on la place au bord du gouffre, attirée par la seule attraction terrestre, chez un humain, une longue habitude de style, de manie et de pensée. Guillemets. Ton adorable et si célèbre intuition, où est-elle? Il n'y a d'autre tiers entre nous que ton orgueil. Je me suis souvenu de nos moments de joie, crois-le, et de nos peines communes. Ce recours a duré 13 ans. Comment s'étonner aujourd'hui s'il s'est usé? J'ai besoin aujourd'hui de bonheur présent pour me changer et me créer d'autres souvenirs. N'oublie pas que je n'aurai 34 ans que dans 8 jours. Ce n'est pas un âge où l'on ne vit que du passé, etc. Fin de guillemets. D'autres mots suivent, plus cruels, puisque pour un instant, je laisse la parole au joueur, guillemets. Je n'ai pas attendu ton conseil pour me reprendre. Me reprendre à toi, bien entendu. Et ne joue pas trop les mamans, soudain, après n'avoir rien eu de plus pressé que nous séparer de nos enfants. Fin de guillemets. Une fois encore, ces lettres à elle valent 100 fois les miennes, pour autant que la passion l'emporte sur l'habileté. Mais il reste que les miennes s'achèvent sur la formule consacrée, guillemets, ma tendresse pour toi infiniment plus grande que tout ce que je pourrais t'en dire, puisque malgré moi, tu ne quittes jamais ma pensée, fin de guillemets, et que les siennes se termine par la formule haï, guillemets, j'ai foi en nous, mon Jean-Baptiste, fin de guillemets. Tout cela ne peut finir que mal. Petit 3 de un homme en creux. Beaucoup plus tard, 2 ans plus tard, le calme revenu, j'écrirai cette phrase singulière, guillemets. La mort est plus apparente que la vie. C'est pourquoi il est plus aisé de justifier les morts que les vivants. Fin de guillemets. Absurde, mais exact. Pendant 20 ans ou un peu moins, je ne prononcerai pas un seul mot contre France, préférant à la fin ne plus parler de leur mère à mes enfants, pour leur laisser l'image qu'ils avaient su se faire d'elle, parce qu'on ne condamne pas les morts. Mais ne voulant souiller sa mémoire du nombre, je ne la comprendrai plus, car on ne comprend pas l'être dont on refuse un aspect lorsqu'on ne sait ce qu'est l'être. En d'autres plans, en d'autres volumes, le pire peut être le meilleur, le pire le mieux. Ce n'est pas en niant le possible qu'on éternise ce qui fut. Je voudrais qu'elle soit ce qu'elle fut. Elle le devient, parce que je ne cache plus rien d'elle, bien que je ne sache encore dire sa force et sa faiblesse, son génie, son aberration. Mais il me semble maintenant que tout était évident quand elle revint à Paris, qu'elle était évidente, ou qu'elle l'aurait été pour tout homme moins crispé ou démoli que moi. Cependant, elle n'était plus pour moi qu'une petite bonne femme trop maigre, qui faisait toujours de trop grands gestes, et je ne saurais même dire si elle m'est revenue le 10 ou le 20 septembre, bien que je penche pour la première date, car c'est alors que tout m'a manqué. Je ne pouvais plus écrire, ma main droite comme paralysée. Le mot M.O.T. me devenait une souffrance. Mon cerveau se vidait aussi. En 15 jours, j'avais écrit tant de textes que Lagarde en refusait la moitié. Il aurait eu plus de peine pour les rendre lisibles qu'à les écrire lui-même. Dans un mouvement d'humeur, il laissa le patron faire ce qu'il voulait et le patron me mit à la porte. Mais l'Harpagon des fortunés refusait aussi de me payer les 100 000 francs ou quelques qu'il me devait. Lagarde, l'antisocial, me défendit jusque-là. Il fit intervenir le syndicat, ce dont je n'étais plus capable. N'en faisant point partie, je jugeais qu'on ne me devait rien. Le syndicat obtint que me soient payées mes piges. Un peu plus tard, tout à la fin de septembre, je sais que je rampais, jouant le chien, sur des dizaines de mètres, au bord de notre trottoir, nos 3 aînés replongés dans leur prison, je me retrouvais seule entre ma belle-mère et ma femme. Madame Leray avait épuisé ses réserves, mais 100 000 francs n'avaient pas fait long feu. De ses malheurs, l'ivrogne fait un cauchemar sans fond. Redressée, droit comme l'obélisque, je me dirigeais vers le commissariat de mon quartier. Au commissaire, j'annonçais qu'à telle adresse, dans la semaine qui suivrait, un grand drame aurait lieu, un suicide ou un meurtre. On m'apaisa, on me conseilla de boire moins. Puis, le lendemain, rayonnante, ma femme nous annonça que c'était fini de l'angoisse. Elle partait pour Cambeau, elle n'en reviendrait que guérie. Là, on saurait déceler son mal physique et nous prouver sa pleine santé d'esprit. Elle parlait d'un dossier que je n'ai qu'entrevu et dont je n'imagine pas ce qu'il pouvait contenir, d'une mystérieuse intrigue dont je ne soupçonnais rien, où elle avait vaincu, mais je n'écoutais plus ce qu'elle pouvait dire. Elle partit le 2 octobre. Je l'accompagnais à la gare où, pour la première fois, je ne l'embrassais pas au moment de l'adieu. Nous sommes demeurés l'un devant l'autre sans un mot, elle sur le marchepied, moi sur le quai, jusqu'à l'ébranlement du train. Puis, le lendemain, 3, j'ai reçu ce télégramme. Tout va parfaitement, excellent accueil, lettre suit. Et pour la première fois aussi, j'ai pris la décision de quitter le domicile conjugal que tout le monde avait fui. Je ne pouvais tout de même pas rester dans ce logis triste, obscurci par 6 ans de souvenirs monstrueux, en compagnie de ma seule belle-mère. J'ai prétexté un reportage et je suis allée rejoindre Cécilie. Je ne voulais que du repos. Et je crois que ce 4 octobre, j'ai surtout dormi. Mais l'un de mes souvenirs heureux, le marché de Clichy, date de ce jour. Le cerveau et le cœur vides, je pénétrais enfin dans le royaume de présence, pareil à une absence qui n'attendrait plus rien. Puis le 5, un appel me parvint. J'avais laissé à Franc-Tireur, où je publiais encore, un téléphone chez mon ami. Une voix inconnue me dit que ma femme était morte. Je me rappelle avoir ri longtemps avant de reposer le récepteur. Et plus longtemps après l'avoir posé. Je n'y croyais pas. Et en même temps, j'y croyais trop. Un espoir insensé qui n'était plus humain m'arrachait à la boîte, me plongeait dans un autre, inconcevable univers, sans décor, sans muraille, ouvert sur l'infini, dont j'avais toujours su qu'il existait. Je suis revenue en taxi chez moi, riant encore. Ma belle-mère s'est jetée dans mes bras. Nous avons pleuré ensemble, toute la nuit. Petit 4 de Un homme en creux. C'est donc le 6 que je suis partie pour Cambeau. Je dois procéder ainsi, par avance logique, me souvenant mal de tout. Mais je n'avais pas assez d'argent pour prendre le train. Je n'y serais pas allée peut-être si quelqu'un du sanatorium au téléphone ne m'avait confirmé la mort de ma femme en insinuant que sans doute je ne pourrais la voir parce qu'on allait plomber le cercueil. Je me rappelais un rêve vieux de 7 ans déjà et fus pris d'épouvante. Je l'ai noté dès le début de ce livre, sans pourtant en donner d'exemple. Avant la mort de France, souvent, je l'ai rêvé. Jamais aussi clairement, aussi précisément qu'en novembre ou décembre 1946. Ou n'ai-je pas un souvenir plus précis de ce rêve, parce que je l'ai noté à mon réveil et relaté dans Les Occidentales, cette suite de la liberté de décembre que la faillite d'Ariane m'a laissée sur les bras. Ma femme mourait en mon absence dans une grande maison percée de 100 fenêtres. Je courais de l'un à l'autre. Je demandais à tous « Qu'en avez-vous fait? Où est-elle ?» Les filles en blanc ne me laissaient pas voir son corps plus que les infirmières, je le savais maintenant, ne me le laisseraient voir. Mais il y avait dans le rêve aussi cette voix qui, bizarrement, ne s'exprimait qu'en latin. « Dura lex, disait-elle, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. » Elle me faisait maintenant étreindre une boîte vide, tandis que nous roulions, le chauffeur des pompes funèbres et moi, sur les routes de France. Étreignais-je la boîte? Ce n'est pas sûr. Il me semble que ce voyage d'aller ne fut pas le plus effrayant. Je pressai le chauffeur et ne lui permis de s'arrêter que le temps d'un café et d'un sandwich. Mais je bavardais avec lui. Il m'arrivait de dire des gaudrioles pour qu'il oubliât sa fatigue. Un corbillard ne roule pas aussi vite qu'une déesse. Peut-être ne vivais-je pas dans la réalité, mais dans le rêve encore. Mon premier cri à l'arrivée, ce fut « Où est-elle ?» On me répondit que le cercueil était scellé. Une crainte folle me vint, une crainte plus qu'un espoir. Je demandai qu'on me conduisît jusqu'à sa chambre. J'ouvris le placard, l'armoire. Je pris dans mes mains son linge et sa robe écossaise. Je dis « Oui, c'est bien elle », et me remis à pleurer. J'ai sangloté toute la journée comme un ivrogne. Chez le juge d'instruction de Bayonne, où j'avais voulu être conduit. Lui ne tenait pas tellement à me voir. Il ne pouvait rien me dire, l'enquête était ouverte. Devant les gendarmes de Cambeau, je pleurais encore, sans me tarir. J'exigeais de voir le corps. Je racontais ma vie, notre vie à tous deux. Pour qu'on me permît de voir ma femme, je déversais 14 ans de passion dans l'entendement étroit de 2 gendarmes. À la fin, exténués, ils appelèrent Bayonne et obtinrent du juge l'autorisation de céder à mon caprice. Au moment de la signer, l'un d'eux, le brigadier, eut pourtant ce sursaut de bon sens ou de pitié. « On a dû l'autopsier, dit-il. Vous le savez, ce n'est pas un spectacle. » J'ai reculé. « N'ouvrez pas. » Longtemps, je me suis reproché ce recul comme une lâcheté. L'une des 3 ou 4 grandes lâchetés de ma vie. Mais, depuis longtemps aussi, je ne me le reproche plus. À constater combien il m'est presque impossible de me la rappeler vivante, j'imagine ce que ce serait si la morte en morceaux venait se juxtaposer au puzzle de sa vie. Mon souci était autre, comprendre. Je suis retournée au sana. Soudain, je ne pleurais plus. L'expert en imposture, le journaliste Pigobert, reprenait les commandes. J'ai vu les docteurs et les infirmières, un à un, une à une. Le chauffeur du corbillard s'impatientait. Il me faisait demander si ce n'était pas bientôt fini. Une infirmière n'avait pas été franche. Elle avait peur. Je voulais la revoir, la réentendre. Dans la chambre de ma femme, je la menaçais d'une gifle si elle ne parlait pas. Elle me raconta la fin. Le lundi 4, France avait passé les examens prévus, toutes les radios possibles, car elle voulait cette fois aller au bout des doutes. Elle était bien heureuse, sûre d'elle. Elle mangeait normalement, il n'y avait pas de drogue dans ses bagages, comme l'enquête et l'autopsie l'ont démontré. Les médecins auraient pu la tuer. Ils en ont tué bien d'autres. Mon père, le père d'un de mes gendres, 2 amis au moins. quelque explication que l'infirmière m'eût donnée, j'étais prêt à la nier pour chercher plus avant. Mais je ne pouvais douter de ce qu'elle me donna, car elle n'expliquait rien. On n'invente pas l'invraisemblable. Le mardi 5, dans l'après-midi, cette jeune fille était entrée dans la chambre de ma femme portant la collation, un thé. France lui demanda le résultat des radios. Une infirmière n'a pas le droit de parler de ces choses. Mais on ne pouvait pas lui résister, me dit la jeune fille en pleurant. Et puis, je croyais lui faire plaisir, dire à une malade qu'elle n'a rien, c'est notre rêve à toutes, le plus secret. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien, pas l'ombre d'une lésion, pas une cicatrice, elle n'était pas malade. Une heure plus tard, je suis revenue pour reprendre le plateau. Elle était morte. Elle était étendue entre le mur et le lit à l'angle que formaient les murs perpendiculaires, comme n'ayant pu aller plus loin. Elle n'avait pas touché au thé. Je suis sortie du sana et j'ai dit au chauffeur, on peut partir. Petit 5 de Un homme en creux. On appelle le destin, on lui demande son aide, on l'implore avec des mots qui déjà ne sont plus d'ici. Et voilà, il répond. Oh, brutes épaisses qu'on dit des dieux, n'avez-vous pas d'autre solution à nous offrir que celle que nous inventons nous-mêmes? Une mort. Est-ce là tout ce que vous savez faire? Est-ce là tout ce que vous pouvez? Les larmes m'empêchent d'écrire après 20 ans. Cette femme incomparable, fidèle au-delà de l'infidélité, prodigieuse même en ses erreurs, dont les plaintes ont toujours sonné comme des victoires, dont les cris figeaient de terreur tous ceux qui les percevaient. Cet élan fait humain. Mais pourquoi, nom de Dieu, ça s'est arrêté là? Il n'y a pas d'impossible. Dans cette longue nuit qui s'étendait pour moi sur toutes les routes de mon pays, depuis la claire et chaude Bayonne jusqu'à l'automne parisien, enfermé dans le fourgon mortuaire avec le cercueil de ma femme, je pleurais beaucoup, je pleurais souvent. Mais quand, à bout de larmes, je devais reprendre souffle, la pensée revenait fidèle, brutale et nue. Laquelle était dans le cercueil? Alice ou France? Et qui étais-je moi-même à genoux devant la boîte et quelquefois couché sur elle d'épuisement? Si j'évoquais sa vie, je n'en avais que des traces, de courtes plages, noires, comme des trous dans une feuille ou comme des taches d'encre parsemant un poème. La Lys France, qui m'accueillait au retour d'une fugue sans colère, sans un autre vieillissement sur son visage intact que la ride bientôt effacée de l'angoisse et de la solitude. France, dans la voix humaine, à Nantes, l'égale des plus grandes, ou celle qui, défendant les radis creux de Meckert, répondait aux acteurs. « Vous n'avez pas d'argent, je sais, moi non plus, mais il ne s'agit pas de fric ici, il s'agit d'art, donc on va continuer. » La filouteuse qui faisait jouer des pièces connes pour tenir le coup avec Bada ou quelques spectacles ignorés. La malade, hurlant sa fureur de n'être pas assez aimée. La Lys infirme, son souffle court, et matraquée par 23 ans d'enfance bourgeoise. La petite Alice, ployée de notre mariage, avec sa rage de dents, et toute sa famille autour d'elle, la mère, géante, soudain, ouvrant des cuisses de glaise pour qu'un de nos enfants se glisse par ce tunnel vers la lumière du jour. L'indestructible mythomane que son mythe à la fin avait tué. Chaque image ouvrait les écluses, relançait mes larmes. Jean-Baptiste hurlait à son tour d'un long et fou appel de chien. Mais Pigobert n'était pas loin, mordillant d'un petit air incrédule sa moustache, l'air surtout embêté. « Bon, disait-il, c'est vrai. Elle n'était pas deux, et nous ne sommes peut-être pas deux non plus. Lorsqu'on crèvera, ce sera ensemble. On ne peut pas te changer, mon con.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas raisonner, car si l'on t'enfermait, je serais captif aussi, et c'est moi qui tuerais infirmières et docteurs. Donc, gardons la tête froide. Peut-être nous sommes-nous trompés. Avons-nous bifurqué trop tôt sur le parcours? Mais où? Ou bien, crois-tu maintenant que nous ayons une âme? Penses-tu qu'il y en ait une? Dans ce cercueil plombé? Jean-Baptiste répondait non, et il pleurait, insuffisance des larmes. L'autre insistait, sauvagement.
Elle était bien ce puzzle où tu la cherches en vain, la patronne et la mère, la fillette gâtée, l'impudente ingénue, l'héroïne également de tant de rôles non joués, puissante néanmoins, et jusqu'en sa mort même. Mais un puzzle uniquement.
Mais aujourd'hui, disait le Baptiste, là, devant nous, en nous, n'est-elle pas l'unique, telle qu'aucune autre femme ne le sera?
Si cela n'existe pas, qu'est-ce qui existe?
Elle n'est que cela, me répondais-je. Au bout de sa route, la route achevée, l'innommable, elle est parce qu'elle n'est plus. Toutes les pièces du puzzle, dans le cela rassemblé, ne sont que de ne plus être. Les pleurs me faisaient taire un peu. Le rêve succédait aux pensées. J'imaginais ma femme entière ailleurs, au-delà des cloisons trop ornées de nos boîtes. J'imaginais en rêve une entité totale, intègre, que rien ne pouvait morceler. Et le rire de Pigobert me poursuivait jusque-là. Je dus dormir longtemps, car le reste fut ce rêve. Je voyais clairement les boîtes et les deux flèches du temps. En chacune d'elles s'entrecroisaient ou de la continuité falsifiée des docteurs vers le monde de l'incohérence que nous nommons la réalité ou de l'incohérence des morceaux que nous sommes vers la finalité qui nous rassure. Les petits bonshommes s'y trouvaient bien, que les montreurs gavent d'illusions et d'impostures pour s'en faire des esclaves fidèles. Mais il n'y avait pas de décor, pas de murailles, les boîtes étaient crevées de toutes parts, les petits bonshommes avaient souffert pour rien. Puis l'espace bougea imperceptiblement, les boîtes se refermèrent, elles tenaient dans le vide par miracle toutes seules, comme des astres ou des électrons sur leur orbite invisible. Le contenant réel était ailleurs et mes yeux jaillissaient hors de l'orbite pour voir. Je ne vis pas vraiment, je ressentis plutôt que ma femme elle-même était l'une des boîtes et que j'en étais une autre. Des flèches couraient encore ici et là, mais celles-là se prolongeaient hors des surfaces et la bonne flèche était bien celle que nous avions choisie, ma femme et moi, mais elle ne menait pas de l'incohérence externe au squelette intérieur. Elle traversait la boîte pour retrouver ailleurs l'universel contenant, indissoluble de son mouvement propre. Et la mauvaise était bien l'autre, mais elle ne menait pas de quelque passé ou de quelque âme interne à l'entropie des scientifiques, au ciel, au purgatoire, à l'enfer des croyants. Elle aussi, traversant les boîtes, reconduisait du froid absolu ce chaotique enfer à l'éternité qui s'étend au-delà de la vitesse de la lumière au carré. S'il fallait inverser la croyance commune, ce ne pouvait pas être en renversant seulement la flèche dogmatique, religieuse ou scientiste, mais en contredisant les facteurs en question, en admettant que quelque chose, notre troisième dimension, sépare seul notre chaos interne aux mille plans entrecroisés de l'indiscernable mouvement qui nous recouvre. Je le dis maintenant. Alors,
Je n'eusse rien dit, car je ne distinguais rien dans cet autre univers que des mouvements et des formes. Les premiers, les mouvements, s'efforçant de s'instaurer dans les secondes, les formes, et les secondes, les formes, se dissolvant bientôt dans les premiers, les mouvements. Des visions effarantes, brutales et déchirées, je gardais seulement l'impression oppressante d'une ténèbre intérieure, parcourue d'illusions et d'objets innommables à la surface des choses, qu'une autre gravité entraînait vers un gouffre fait comme une épousaille. Quand je m'éveillais, le rétroviseur me regardait inquiet dans le rétroviseur. Il portait une moustache comme moi, mais son visage était beaucoup plus large que le mien. Il eut un grand sourire me voyant calme, et ce sourire l'élargit. Il me sembla que Pigobert me regardait. « Eh bien, lui dis-je, y as-tu compris quelque chose ?» Son grand sourire disait qu'il savait depuis toujours que c'était moi, le Baptiste en pleurs, qui n'avait rien voulu entendre. Nous remontions l'avenue de la porte d'Italie. Le voyage était fini, la longue nuit et le rêve. Mais cela seul s'achevait. Le cercueil restait là, et moi, debout, tari. Ni ma mort, ni ma vie n'étaient un cauchemar. Grand 5 de Un homme en creux. Petit 1.